Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, fête de Ramadan, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers annonce avoir porté secours à 105 personnes à travers 87 interventions sur le territoire national, dont 5 décès dans des accidents de la route. Saisie d'une importante quantité de farine de blé impropre à la consommation ainsi que de la drogue, ces produits saisis d'une valeur de 700 millions de francs CFA ont été détruits ce mardi par le ministre en charge des Finances. Aux États-Unis, c'est officiel, le président américain Joe Biden annonce qu'il est candidat à sa réélection en 2024. Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée ce jour 25 avril, nous recevrons comme invité le docteur Herman Sorgho. Il est chercheur à l'unité de recherche clinique de Nanoro. Avec lui, il sera question des progrès de la recherche liés au paludisme. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Cette brève en début de journal, terrorisme au Burkina, il faut sauver Obiré, alerte un habitant de la localité située à 7 km de la ville de Loropéni dans le sud-ouest du pays. Cela fait plusieurs mois que le village fait office de ligne de front tant les attaques ont été nombreuses dans le village et ses alentours. Pratiquement, tout le monde est parti à Loropéni, il reste que quelques personnes à Obiré, a déclaré un habitant du village. Ce dernier précise que le village a subi des attaques ces derniers temps et que quelquefois les terroristes viennent tirer à l'entrée du village pour effrayer les habitants. Ces harcèlements à répétition ont conduit une grande partie de la population à quitter le village. Cette autre information, pénurie d'eau à Dori dans le Sénot, des femmes crient leur ras-le-bol. Des dizaines de femmes, casseroles, bidons et autres récipients à main se sont rassemblées hier lundi à la mairie de la ville pour, disent-elles, manifester leur mécontentement face à une pénurie qui dure depuis plusieurs mois. En l'absence du président de la délégation spéciale de la ville de Dori, c'est son premier adjoint qui a reçu ces femmes. Une autre rencontre est prévue demain mercredi avec le président de la délégation spéciale. En attendant, la desserte d'eau a repris dans certains quartiers de la ville, a confié à Omega la coordonnatrice du mouvement Mariam Untungi. Je vous l'annonçais en titre, lutte contre les produits prohibés et impropres à la consommation. Le ministre en charge de l'économie et des finances, Aboubacar Nakanabo, a procédé ce mardi 25 avril à la destruction de produits impropres à la consommation composés de farine, de blé. À cela s'ajoute une importante quantité de drogue. Avec un poids avoisinant à 45 tonnes, le coût de ce butin est estimé à 700 millions de francs CFA. Cette saisie est l'œuvre de la coordination nationale de lutte contre la fraude. Le compte rendu est de Solomon Ninkiema.
200 sacs de 50 kg de farine de blé, 719 colis d'amphétamine et 1150 cartons pour les autres produits, ce sont entre autres le butin saisi par la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Le poids total des produits saisis est estimé à 45 tonnes. La valeur est d'environ 700 millions de francs CFA. Yves Kafando, coordinateur de la Coordination nationale de lutte contre la fraude.
Depuis un certain temps, nous avons entrepris des actions afin de démanteler les différents réseaux de fraude. Et c'est dans cette dynamique que nous avons pu démanteler cela. Et une partie donc de ces produits prohibés que nous sommes en train d'incinérer ce matin, issus des saisies qui ont été opérées au niveau du marché de Sankariaré. Et une autre partie, on fait l'objet de contrebande, qui ont été saisies effectivement sur les axes. Nos services.
Cette saisie a été effectuée par les partenaires de la Coordination nationale de lutte contre la fraude, qui sont entre autres la police nationale, la police municipale et la douane. Le ministre en charge de l'économie et des finances, Aboubacar Nakanabo, a félicité les différents corps pour le travail accompli.
me donner là l'occasion de féliciter la Coordination nationale de lutte contre la fraude et tous ses partenaires, la police nationale, la police municipale, qui ont travaillé à ce que nous puissions débusquer des réseaux de faussaires qui importent des produits prohibés, qui sont dangereux pour la santé humaine. Et donc, ce matin, nous sommes venus pour incinérer une saisie qui a été faite. C'est une très grande saisie qui montre que les équipes font du travail sur le terrain.
Face à la dangerosité de la consommation des produits prohibés et impropres à la consommation, les acteurs de la lutte contre la fraude invitent les populations à dénoncer tous les cas de fraude.
La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a annoncé dans un bilan fait après la fête du Ramadan le 21 avril dernier avoir porté secours à 105 personnes à travers 87 interventions sur tout le territoire national. 6 personnes sont mortes parmi les personnes secourues, dont 5 par accident de la route, indique donc la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Plus de détails avec Yaya Diomandé et Mariam Soma.
Des chiffres en hausse par rapport à ceux de l'année passée. 97 interventions avec 3 morts proviennent entre autres des interventions de secours à victimes d'incendies, mais surtout d'accidents de la circulation qui ont causé 5 morts et nécessité 53 interventions. La première et la 11e compagnie basée à Ouagadougou ont enregistré 4 décès, 3 hommes de 47, 35 et 25 ans et une femme de 22 ans. La première compagnie a également procédé à l'évacuation sanitaire de 5 victimes conscientes, dont 4 militaires et un VDP suite à l'attaque terroriste à Bitou. La troisième compagnie basée à Koudougou, elle a enregistré un décès par accident. Il s'agit d'une fillette de 3 ans, indique la BNSP. Quant à la cinquième compagnie basée à Banfoura, elle a enregistré un décès, un homme âgé de 56 ans pris de malaise.
Souvenez-vous, le 30 janvier dernier, le capitaine Ibrahim Traoré avait décrété la mise en place d'un bulletin de paix digital au profit des agents de la fonction publique. Désormais, les agents de la fonction publique peuvent accéder à leur bulletin de paix en tout temps et en tout lieu grâce à un espace numérique sécurisé. C'est la nouvelle trouvaille du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de digitalisation de l'administration. Le lancement officiel de cette plateforme a eu lieu hier à Ouagadougou en présence de Fawzia Zongo et Momone Tamboura.
C'est un clic qui lance officiellement la plateforme e-bulletin. E-bulletin se veut un espace numérique sécurisé, facilitant l'accès des bulletins de paix par les travailleurs en tout temps et en tout lieu, à partir de leur connexion Internet. Elle présente des avantages aussi bien pour les agents du public que pour l'administration, selon le ministre en charge de l'économie, Aboubacar Nakanabo.
Ce qui est quand même un facteur de célérité, un facteur d'efficacité dans les actions, et ça permet donc aux fonctionnaires de se consacrer beaucoup plus à leurs activités plutôt que de se déplacer pour aller rechercher des bulletins. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages.
La plateforme e-bulletin fonctionne comme toute autre application classique. Pour y avoir accès, la création d'un compte est obligatoire avec des informations personnelles. S'identifier avec son matricule et le mot de passe, ensuite consulter ou télécharger son bulletin de paix et le mot de fonctionnement du e-bulletin. Lassane Ouedraogo, directeur général des systèmes d'information du ministère en charge des finances.
Également, l'espace est réservé aux partenaires de l'administration qui gèrent ces données, notamment les banques. Avec l'application, une banque ne va plus demander à un agent d'amener un bulletin lorsqu'il va faire la demande d'un prêt, parce que les banques peuvent avoir directement accès à travers le compte de l'agent. Donc, si l'agent est domicilié chez moi, je peux, sur la base de son compte, aller regarder son bulletin, les éléments de salaire des 3 derniers mois, comme il le demande à travers les bulletins physiques.
Le bulletin de paix, sous ce nouveau format, aura la même valeur que le bulletin de paix physique. Cette plateforme, entièrement développée en interne par les informations du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, garantit la sécurité, la fiabilité des données et leur accessibilité, rassure le ministre Aboubacar Nakanabo.
Au Burkina Faso, les aides ménagères sont de plus en plus sollicitées dans les différents ménages. Ce besoin croissant a aussi entraîné la naissance d'agences de placement formelles ou informelles, avec à la clé des pratiques illicites qui engendrent souvent des conséquences sur ces jeunes filles. Un phénomène dont se penchent des organisations de défense des droits de la femme et ceux de la jeune fille, en particulier à travers un atelier d'échange avec la presse tenu hier lundi 24 avril. Objectif, mieux vulgariser vulgariser les textes en la matière et permettre à ces jeunes filles de pouvoir exercer dans la légalité. Le compte-rendu est de Yasmine Ebier avec la voix de Alice Kagoné.
Cet atelier fait suite à une rencontre d'échange entre organisations et associations de défense des droits des femmes et plusieurs acteurs. Des échanges qui ont permis d'identifier les problèmes liés à cette activité avec des propositions de solutions sous forme de recommandations. Gisèle Dabré, présidente de l'association AFEM.
Nous avons constaté effectivement que le travail de ces femmes et jeunes filles de ménage ne sont pas sécurisés, c'est éphémère. Donc nous estimons que dans un premier temps, il faut d'abord les former et aussi travailler pour que l'administration prenne des textes, pour qu'il y ait un cadre juridique qui sécurise leur travail. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses à faire. Non seulement il faut que ce soit des professionnels, ces femmes et jeunes filles, et aussi qu'il y ait des textes qui encadrent ce travail.
Des textes d'encadrement existent en la matière et des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour une meilleure application. Jérémy Ouedraogo, inspecteur de travail.
La convention C89, c'est une recommandation pour sa ratification. C'est déjà dans le processus de ratification. Les dossiers se trouvent présentement au ministère des Affaires étrangères. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est le Conseil des ministres. En plus de ça, il y a déjà la sensibilisation maintenant pour l'application de la loi 2010. Là. Voilà, donc ça, nous demandons à tout le monde, c'est-à-dire que nous le faisons, mais les autres acteurs aussi peuvent nous aider à sensibiliser les employeurs qui interviennent dans ce secteur-là pour que ce texte-là ait une meilleure application.
Cet atelier est une initiative de l'Organisation des défenses des droits des femmes, du projet Voix et Leadership féminin et Affaires mondiales Canada avec l'appui financier de Oxfam. Il a également connu la participation d'un représentant des services techniques de l'État.
Quête de paix, de résilience et de l'unité nationale au Burkina Faso, c'est sous ce thème que la chanteuse Amity Meria a organisé un concert live ce dimanche dernier au Sénaza. Jean-Paul Ouedraogo pour le compte-rendu.
Depuis plusieurs années maintenant que le Burkina Faso traverse une situation d'insécurité, c'est dans ce contexte d'une recherche de paix et de vivre ensemble que s'inscrit ce concert. Amity Meria, artiste chanteuse burkinabé.
Ce concert s'inscrit dans le cadre de la paix, de la résilience et de l'unité nationale. Nous savons que notre pays traverse un moment très très difficile. C'est une manière pour d'attirer l'attention de tous les Burkinabés sur l'importance de s'unir pour booster le mal hors de chez nous. C'était pour moi aussi l'occasion de faire passer des messages très très forts avec des personnes ressources, avec des artistes qui sont venus donner de la voix.
L'initiative d'organiser ce concert de l'unité est à saluer, selon le parrain artistique de ce concert, Abdoulaye Cissé.
Le thème même qu'elle a choisi, ça, c'est un thème même qui interpelle. Dire qu'on recherche la paix dans la résilience nationale, c'est vraiment un bon thème. Devant tant de considérations, je ne pouvais pas refuser. C'est un honneur aussi d'être parrain d'un événement tout en étant musicien. Et voilà, donc pour moi, c'était pas. La question ne se pose pas si j'accepte ou si je n'accepte pas. Quoi.
Tout au long de cette soirée, Amity Meria a invité les Burkinabés à cultiver une paix véritable. Elle se dit convaincue que c'est en cultivant aussi la paix que le Burkina Faso pourra retrouver sa tranquillité d'antan.
Je vous l'annonçais en titre, à l'international, Joe Biden a annoncé ce mardi 25 avril son intention de vouloir briguer un second mandat à la tête des États-Unis. Il en avait l'intention, c'est désormais officiel. Je suis candidat à ma réélection, a dit le président américain de 80 ans dans un message vidéo publié sur Twitter. Lorsque je me suis présenté à la présidence il y a 4 ans, j'ai dit qu'il s'agirait d'une lutte pour l'âme de l'Amérique et nous en sommes encore là, a dit Joe Biden avant de poursuivre. L'heure n'est pas à l'autosatisfaction, c'est pour cela que je me présente en vue d'une réélection. Finissons le travail, je sais que nous sommes capables. Aussitôt après l'annonce de Joe Biden, le parti républicain a accusé le président américain d'être déconnecté. Biden est tellement déconnecté de la réalité qu'il pense mériter 4 ans de plus au pouvoir alors qu'il ne fait que créer des crises, a dénoncé la chef du parti, Rona McDaniel. Retour en Afrique, notamment au Soudan, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé dans un communiqué que les deux belligérants soudanais ont accepté une trêve de 72 heures dans le pays à compter de ce mardi 25 avril à minuit. Selon le communiqué, il a fallu d'intenses négociations de 48 heures avec les deux intéressés, les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, alors que les explosions, les raids aériens et les tirs n'ont pas cessé depuis le 15 avril dernier à Khartoum. Le cessez-le-feu est censé valoir sur tout le territoire soudanais à partir de ce mardi 25 avril à minuit au lundi 24 avril à 22h, temps universel. Cette fois-ci, les États-Unis exhortent les belligérants au respect immédiat et intégralement de ce cessez-le-feu. Anthony Blinken annonce aussi que son pays va se concerter avec ses partenaires régionaux et internationaux pour mettre en place un comité chargé de superviser la négociation pour une cessation durable des hostilités.
La revue de presse.
Le massacre de Karma dans le Nord fait la une des principaux quotidiens du jour. Nos confrères s'interrogent sur ce qui s'est passé réellement ce jeudi 20 avril 2023 à Karma, dans la province du Yatenga. Même si une enquête a été ouverte, l'observateur Palga pense que dans cette affaire, il y a urgence à lever l'honneur de nos soldats. Le quotidien, lui, s'interroge sur l'atteinte de nos libertés et droit dans la lutte contre le terrorisme. Et dans notre contexte sécuritaire où on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi, l'Express trouve inadmissible de constater encore qu'au Burkina Faso, des effets militaires sont vendus sur la place publique. La revue de presse, c'est avec Brigitte Yoda.
Ce 25 avril, les quotidiens font un blackout sur la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Par contre, le massacre de Karma figure en couverture et sur ces événements près de Waiguya, le procureur du Faso évoque une soixantaine de tués et ouvre une enquête, titre aujourd'hui au Faso, qui se demande qui sont les auteurs de ces supposées tueries et qui sont les victimes si cela est avéré. À l'extrême gravité des faits vient s'ajouter la confusion sur l'identité des assaillants poursuit l'observateur Palga. Car selon les témoignages rapportés par les médias qui en font cas et corroborés par le communiqué du parquet de Séan, les auteurs de ce massacre porteraient la tenue militaire burkinabé. Nos soldats seraient-ils réellement à l'origine d'une telle barbarie ou s'agirait-il tout simplement de terroristes ayant arboré la tenue terre du Burkina dans l'intention diabolique de souiller l'honneur de nos forces de défense et de sécurité ainsi que celui de nos volontaires pour la défense de la patrie ? Question le doyen des quotidiens qui espère que l'appel à témoins du parquet de Waiguya sera effectivement suivi des faits et le plus rapidement possible afin de laver l'honneur de nos soldats. Parlant de nos FDS, le quotidien s'offusque car dans le contexte actuel du Burkina, il pense qu'il est inadmissible de constater encore qu'au Burkina Faso, des effets militaires, notamment des vêtements et des chaussures, se retrouvent en vente sur la place du marché. Reconnaissant que sur la question, il y a un vide juridique qui est exploité, pour le journal, il faut donc mettre un terme à cette pratique qui peut même porter préjudice à la dynamique actuelle de lutte contre le terrorisme. Car en effet, des terroristes peuvent utiliser les tenues militaires pour faciliter leurs actions assassines sur le terrain. Et dans sa rubrique « Autant le dire », l'Express du Faso s'interroge sur l'atteinte à la liberté et aux droits dans la lutte contre le terrorisme. Au fait, qui des forces de défense et de sécurité et des groupes armés terroristes enfreignent à la liberté et aux droits des citoyens ? Questionne le journal Bobolais. En tout cas, pour notre confrère, partout où des personnes civiles sont lâchement exécutées, il faut le dénoncer et défendre leur cause. Car la vie et la liberté conditionnent l'essence même de l'existence de l'homme sur Terre.
L'invité du jour. L'invité du jour.
À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce mardi 25 avril, nous recevons comme invité le docteur Herman Sorgho. Il est chercheur à l'unité de recherche clinique de Nanoro. Interrogé par Brigitte Yoda, il revient sur les progrès de la recherche et rappelle les consignes du ministère de la Santé pour lutter contre cette maladie qui fait des milliers de victimes au Burkina.
Docteur Sorgho, bonjour. Bonjour madame.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le Burkina a enregistré 12 millions de cas avec 4 355 décès, en majorité des enfants de 3 à presque 5 ans selon le SP Palu. Comparativement à l'année dernière, avons-nous fait des progrès ou avons-nous reculé?
On ne peut pas aujourd'hui ignorer l'impact de l'insécurité sur la mise en œuvre des moyens de lutte contre le paludisme et le SP Palu vous confirmera qu'on a eu beaucoup de difficultés à atteindre beaucoup de régions du pays. Donc, ce qui fait que, grosso modo, les chiffres ont légèrement augmenté.
Est-ce que aussi la situation sécuritaire est un des facteurs qui fait qu'en Afrique, le Burkina Faso est classé troisième parmi les pays les plus touchés après le Nigeria et la RDC?
Je conviendrai avec vous que non, parce que le fait que le Burkina Faso ait été retenu comme les pays ayant un high impact, comme on dit, un impact élevé du paludisme, avait été décidé longtemps avant que la situation sécuritaire du Burkina se détériore.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce positionnement, Dr Sorgho?
Plusieurs facteurs concourent à expliquer cette situation. La transmission du paludisme varie en fonction du climat. Donc, il y a des années là où on a moins de transmission parce que simplement, on n'a pas eu assez de pluie. Pendant longtemps, nous avons eu comme outil majeur les moustiquaires imprégnés. Alors que, depuis les années 2001, on a remarqué que la couverture ne dépassait pas 40%. 40%, c'est ceux qui ont vraiment effectivement utilisé les moustiquaires. Quand bien même on a fait des campagnes, on donne des moustiquaires, mais quand vous posez la question, on se retrouve autour de 40%. Ce qui peut expliquer ça. On a aussi le problème de la résistance des parasites aux antipaludiques. Et il y a aussi le problème de l'adhésion des populations.
Alors parlons du vaccin, le RT21, qui a montré une efficacité contre le paludisme à 77%. À quelle phase les chercheurs sont-ils actuellement?
Le candidat vaccin, on devrait dire.
Le candidat vaccin.
À la différence de RTSS, qui est aujourd'hui un vaccin recommandé, qui a passé toutes les étapes, le vaccin R21 est toujours un candidat vaccin parce qu'il est toujours à la phase 3 de son développement. L'initiation de cette dernière phase conduisant à la demande de licence d'exploitation et à une demande d'homologation, par exemple, par l'OMS, a commencé en avril. Donc, c'est-à-dire que nous avons les résultats avec les objectifs primaires qui étaient d'évaluer l'efficacité de R21 après une année d'administration. Et nous sommes actuellement en train d'analyser activement les données d'efficacité et de sécurité. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous allons pouvoir publier les résultats. Et si nous publions ça et nous espérons que les résultats primaires que nous connaissons, qui tournent autour de 70%.
Il est temps de parvenir à zéro cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre. C'est le thème retenu cette année. Quelle appréciation faites-vous justement de ce thème-là?
Ce thème est vraiment d'actualité parce qu'il y a un effort mondial visant à vraiment atteindre ce zéro cas-là aux environs 2030. Et nous sommes en 2023. Et aujourd'hui, nous avons, je pense, assez d'outils pour pouvoir vraiment décider qu'il faut atteindre le zéro cas.
Assez d'outils pour atteindre le zéro cas. On sait que la recherche joue un grand rôle. Qu'en est-il justement des moustiques OGM qui avaient été lâchés à Bobo? Ont-ils atteint l'objectif fixé?
Ces moustiques ont entièrement atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Ce sont nos collègues de Bobo Dioula qui font ce travail avec le docteur Diabaté. Et ces moustiques, aujourd'hui, nous savons que ces moustiques transgéniques, quand on les lâche, ils ne vont pas plus d'un kilomètre. Ce qui est complètement dans les objectifs que nous étions fixés. Et nous, ces moustiques ne vivaient pas plus longtemps que les souches sauvages, c'est-à-dire autour d'un mois, ces moustiques mouraient naturellement. Donc cette première étape, on peut dire, a été couronnée avec succès. Maintenant, il faut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire réorganiser, analyser les données et procéder à des tests maintenant pour voir est-ce que ces moustiques OGM la peuvent contribuer à éradiquer la population sauvage.
Et en dépit des avancées de la recherche et des moyens mis en œuvre pour lutter contre le paludisme, la maladie continue de sévir. Quel appel avez-vous à lancer aux populations, précisément aux parents, en vue de protéger les enfants qui sont les plus vulnérables?
Il faut continuer d'utiliser tous les outils que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et les départements techniques, mettent à la disposition des populations pour lutter contre le paludisme. Nous avons la prévention chez la femme enceinte. Surtout les parents doivent adhérer fortement à la chimioprévention saisonnière, à l'utilisation des moustiquaires imprégnés et au vaccin RTSS quand il va arriver, en attendant l'arrivée probable du vaccin R21 qui est beaucoup plus efficace que RTSS. Et ce n'est que comme ça que nous allons vaincre le paludisme. Parce que, comme vous savez, le parasite, c'est un parasite qui a plusieurs stades. Donc c'est très difficile qu'un seul outil puisse couvrir tous les stades parasitaires en même temps.
Docteur Sorgho, merci.
Je vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Edwige Chendrebego, à la retransmission Facebook Yaya Diomandé. À la présentation, je suis Abdoulkader Kounaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.